On aura peut-être du neuf et un suivi sur le tramway de Québec parce que c'est lui qui, à chaque mois, doit nous rencontrer pour nous faire un peu une mise à jour de ce qui s'en vient.
On va suivre ça. Merci beaucoup, Jonathan.
Au plaisir, au revoir.
Au revoir. On va maintenant changer de sujet totalement parce que le 13 septembre dernier, ça a fait 260 ans de la bataille de Lens au Foulon. Et pour en parler puis pour en comprendre la signification et l'importance pour Québec, on va aller joindre à l'instant Éric Bédard, qui est professeur à TELUQ et historien. Éric Bédard, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, rappelez-nous là, ce qui s'est passé à Sillery ce 13 septembre 1759.
Ben, ce qui s'est passé, c'est un affrontement entre, d'un côté, une armée française assez bigarrée, qui était faite de militaires français de métier, qui était là depuis 1756, qui était faite de miliciens canadiens, donc des habitants de la colonie, et d'Amérindiens. Et de l'autre côté, ben, des Britanniques qui avaient assiégé Québec pendant tout l'été. Ils étaient arrivés autour de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, autour du 20-24 juin de l'été. Ils avaient bombardé la ville, ils avaient tenté de descendre à Beauport, descendre à Montmorency le 31 juillet. Ils avaient fait des petites incursions à Neuville, mais ça n'avait pas marché, rien n'avait fonctionné. Et là, le grand général des armées britanniques, qui est, dans son armée, il y a des Britanniques, il y a des Américains, bon, décide de jouer le tout pour le tout et d'attaquer les Français en empruntant Lens au Foulon, qui est une voie très escarpée, si on l'emprunte encore aujourd'hui, mais vous imaginez à l'époque, monter quelques milliers de soldats sur à travers cette voie très escarpée, des canons et tout ça.
Juste pour que les gens sachent exactement de quoi on parle, là. On parle-tu genre près d'où il y a la côte Gilmore, là?
À peu près dans ce coin-là.
Okay.
Donc, vous voyez à peu près le chemin, là, c'est assez escarpé.
On voit la côte, effectivement, qui est très, très à pic.
C'est ça. Donc là, c'est le matin du 13 septembre. D'ailleurs, tout l'état-major de James Wolfe était opposé à cette opération, jugeait ça complètement suicidaire, complètement hasardeux, dangereux. James Wolfe avait eu des problèmes à la fin du mois d'août, des problèmes de santé. Il était, pense-t-on, peut-être même un peu dépressif, parce que, vous savez, il fallait que les Anglais fassent quelque chose avant l'automne, avant l'hiver,
ben oui.
Parce qu'ils allaient être pognés dans la glace. Donc, il fallait qu'il se passe quelque chose. Et là, c'est ça. Donc, c'est le tout pour le tout. Et donc, autour de 10 heures, l'affrontement a lieu. Donc, les troupes françaises étaient dans le coin de Beauport. Donc, Montcalm apprend la nouvelle de l'arrivée des Britanniques sur les hauteurs des plaines d'Abraham autour de très tôt le matin. Et au début, il est complètement surpris, il est pris de court. Donc là, il faut transporter les troupes de Beauport jusqu'aux plaines d'Abraham à pied. Là, c'est quand même pas à la porte.
C'est
vrai. Et c'est quand même assez loin. Donc tout ça à pied, en cheval, à cheval et tout ça. Donc on arrive et autour de 10 heures du matin, ben là, Montcalm sonne la charge,
oui.
Donc lance l'attaque. Et là, ça se passe très mal. Ça se passe pas comme prévu. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est convaincu que les Anglais vont contre-attaquer par Beauport, par Montmorency. Donc, ils vont les prendre à revers. Donc, lui, il se dit, il faut tout de suite les renvoyer dans le fleuve, faut tout de suite les battre, parce que sinon, il va envoyer d'autres troupes et puis on va être pris en sandwich entre les deux. Et donc, il lance l'attaque et ça se passe mal puisque la salve des Britanniques, les Britanniques vont donner deux coups de feu, mais en même temps, il y avait juste deux balles dans les fusils. Et les deux salves sont parfaites, bien coïncident parfaitement. Et ça fait très mal aux troupes françaises. Il y a des Canadiens miliciens qui vont se cacher parce qu'ils sont pas des militaires de carrière. Eux autres, quand on se fait tirer dessus, on va se cacher, c'est normal. Mais des militaires de carrière, eux, ils sont habitués d'avancer en groupe. Et donc, assez rapidement, les Français sont comme désorganisés. Ils se replient derrière les forteresses de Québec. Québec avait donc son mur à l'époque. Hein?
Oui.
On a encore des traces aujourd'hui. Donc, ils se font une retraite dans la ville de Québec, ferment les portes de la ville. Et deux, trois jours plus tard, ben finalement, là, les armées françaises, entre-temps, Montcalm va mourir durant la nuit du 13 au 14 septembre, Wolfe aussi. Et donc, deux, trois jours plus tard, ben, Et finalement, le Québec va se rendre. Il y aura une reddition de la ville de Québec.
Donc, c'est très exactement 260 ans aujourd'hui que Québec s'est rendu. Donc, ça a été une bataille extrêmement déterminante.
Ben, c'était en fait vendredi dernier, le 13
septembre. Non, le 13, mais là où ils sont à partir du moment où
exactement.
Ils ont pris Québec, c'était
trois jours plus tard, exactement.
Est-ce que c'est la stratégie militaire des Anglais qui était supérieure ou c'est dans l'exécution qu'on s'est planté?
Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. C'est sûr que c'était comme un coup de poker. Wolfe a bien réussi son coup de monter ses troupes et de prendre par surprise l'ennemi. C'est toujours prendre l'ennemi par surprise, c'est toujours un facteur psychologique aussi qui peut jouer. On reproche à Montcalm de pas avoir entendu d'autres troupes, d'avoir sonné la charge trop rapidement parce qu'il y avait d'autres troupes qui étaient situées dans la région à peu près dans Portneuf, dans le tour de Neuville, des troupes qui étaient dirigées par son aide de camp Louis-Antoine de Bougainville. Et il y avait à peu près, il y avait quelques centaines, quelques milliers d'hommes, des troupes très bien formées, qui auraient pu prendre à revers l'armée de Wolfe hein, par derrière. Donc là, c'est eux qui auraient été pris en sandwich. Mais donc on reproche à Montcalm d'avoir fait ça trop vite, de pas avoir attendu. Mais comme l'explique bien Dave Noël, c'est un journaliste au Devoir qui vient tout juste de sortir un livre, enfin tout juste, ça fait quelques mois, un livre sur Montcalm. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de monographie sur le général Montcalm. Lui, il croit que si on regarde toutes les données qu'avait, les cartes qu'avait entre les mains Montcalm, on peut comprendre qu'il ait pris la décision à ce moment-là.
OK. On entend souvent que la France a laissé tomber le Québec, qu'ils nous ont pas protégés autant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Nouvelle-France était un enfant pauvre dans leur priorité?
C'est sûr qu'on avait beaucoup de choses qui jouaient contre nous. D'abord, c'est une immense colonie à l'époque, même si la France n'occupait pas tout le territoire. Ça tenait beaucoup grâce à nos alliances avec les Amérindiens. C'était une immense colonie de 70 000 habitants, mais ça allait du golfe du Saint-Laurent jusqu'à la Louisiane. Vous imaginez, c'est gros comme Drummondville, là, 60 000 habitants. Là, je veux dire, ça fait un immense territoire avec très peu de population, alors que les colonies anglo-américaines étaient rendues à 1,3, 1,5 millions au milieu du 18e siècle. Ils voulaient s'étendre vers l'ouest. Donc, il y avait des pressions très fortes. En même temps, la France, en 1756, envoie quand même des troupes assez importantes avec un général qui avait beaucoup d'expérience, qui était très respecté, Montcalm. Arrivé en 1759, quand c'était le temps d'en envoyer d'autres troupes, peut-être, pour soutenir Montcalm, parce qu'on savait que les Anglais allaient attaquer durant l'été 59, parce que les Anglais venaient de remporter la victoire de Louisbourg. Louisbourg, hein, c'est une forteresse qui était sur le Cap Breton aujourd'hui. On peut la visiter, c'est un site touristique. Ouais. Mais Louisbourg, hein, c'était le fort français, c'était la porte d'entrée du Saint-Laurent que les Français protégeaient. Là, et ils avaient constitué ce fort un peu avant. Et là, ça tombe aux mains des Anglais en 1758. Donc il n'y avait plus de barrières. Donc les Anglais pouvaient avancer librement jusqu'à Québec. Donc, les Français savaient. Donc, ils vont envoyer, durant le mois de janvier 59, on va envoyer Bougainville à la cour pour demander à la France des renforts. Mais le problème, c'est que la France, en 59, décide, et c'est pas très connu, ça, ici, mais ce qu'elle décide, elle, c'est d'envahir l'Angleterre en 1759. Donc, de récupérer toute la marine, tous les bateaux disponibles dans une sorte d'opération assez incroyable, assez audacieuse, d'aller envahir pour justement forcer les Britanniques à rapatrier peut-être leur armada là qu'ils avaient envoyé en Amérique. Mais ça va être un fiasco. Alors si cette opération-là avait fonctionné, ben là ça aurait changé le cours de l'histoire peut-être. Mais cette opération-là va être un fiasco. Alors est-ce que les Français ont abandonné? Je trouve ça un peu exagéré. Mais c'est sûr que lorsque va venir le temps de négocier. Parce qu'une fois qu'ils avaient remporté cette victoire, c'est plein de brames, c'était pas joué, là. Parce que la guerre se poursuivait sur d'autres champs de bataille, en Europe, en Afrique, en Inde même, en Amérique centrale. Peut-être que les Français auraient pu négocier le retour de la Nouvelle-France puis du Canada dans leur empire. Mais finalement, les Français ont décidé de se départir de la Nouvelle-France, mais de conserver ce qui était le plus payant, c'est-à-dire Saint-Domingue, donc Haïti d'aujourd'hui et les Républiques dominicaines, pour le sucre. Ils avaient beaucoup investi d'argent. Il y avait beaucoup d'esclaves qui déjà vivaient sur l'île de Saint-Domingue pour produire du sucre. C'était un gros commerce. Et pour garder quelques bancs de pêche dans le coin de Terre-Neuve, c'est-à-dire Saint-Pierre et Miquelon. Donc, du poisson puis du sucre, puis le reste. Il restait de la fourrure. C'était pas très payant. C'était pas très important dans l'économie française de l'époque. Donc, on a laissé ça aller aux Anglais. Et puis, bon.
Avec les résultats qu'on sait aujourd'hui, il y a des gens qui disent que, par exemple, on a beau célébrer et dire ça fait 260 ans, puis c'est là que le sort de l'Amérique s'est joué, l'Amérique française. À cause des chiffres que vous avez donnés un peu plus tôt, puis de la réalité, c'était inévitable. C'était juste une question de temps que ça arrive. C'est juste que ça a tombé, que c'était cette journée-là. Mais ça serait arrivé de toute façon au cours des années suivantes.
En effet, ça serait probablement arrivé. Peut-être que ce qui a été plus déterminant, au fond, c'est que vous savez, c'est que les colonies britanniques, au fond, ils ont été constitués par qui? Ben, ils ont été constitués par des dissidents religieux, hein, essentiellement, au 17e siècle. Donc, plutôt que de partir en guerre, de faire des grosses guerres civiles en Angleterre contre les dissidents religieux, parce qu'il y avait beaucoup de confessions religieuses au sein du protestantisme, hein, il y a beaucoup de confessions religieuses, alors que l'Église catholique est plus monolithique, là. Donc, on a décidé, dans le fond, les dissidents religieux ont quitté l'Angleterre et sont allés s'installer en Amérique. Il y a eu comme ça, les 13 premières colonies américaines sont 13 colonies dominées par des congrégations religieuses dissidentes, protestantes. Imaginez que la France aurait fait la même chose avec ses protestants. Allez, ça va vous faire plaisir, vous êtes un homme qui aimait le capitalisme, l'argent, les huguenots, non, mais la prospérité, hein, on sait, il y en a qui disent que le capitalisme vient des protestants. Bon, ben, imaginez que les huguenots, donc les protestants français, parce qu'il y a eu des grosses guerres en France contre les protestants, qui étaient une minorité, on en a envoyé juste 50 000 sur les 300, 400 000, là. Mais si on en avait envoyé quelques dizaines de milliers en Nouvelle-France, ça aurait complètement changé la carte, d'abord démographique. Parce que là, si vous envoyez une vingtaine de mille huguenots durant le 17e siècle, mais là, aujourd'hui, on serait au moins 50, 60 millions. On serait
Il aurait occupé le territoire aussi, là, au niveau de la guerre.
Exactement.
Il aurait changé les frontières.
Exactement. Okay. Exactement. Mais en 1627, c'est le cardinal Richelieu qui est au pouvoir. C'est un catholique très, très fervent. Et d'ailleurs, il fait la vie dure aux protestants à La Rochelle, la ville de mon ancêtre Bédard. Donc, qui était lui-même un protestant, mon ancêtre, il a dû se convertir, comme plusieurs qui sont venus ici. Donc, exactement. Donc, en 1627, on dit, pas question qu'il y ait des protestants en Nouvelle-France. Et là, probablement, c'est ça la décision la plus déterminante dans le cours de l'histoire, au fond.
C'est intéressant. Mais Éric Bédard, merci beaucoup de nous rappeler.